Frères et sœurs bien-aimés, en ce temps du carême, nous cheminons en compagnie du Seigneur et nous affrontons, comme lui au désert, les tentations qui nous assaillent, le démon qui cherche à nous perdre. La première épître nous a rappelé que ce peuple d'Israël et ce peuple qui a longtemps marché dans les ténèbres, errant, c'est ainsi qu'il est appelé par Dieu. Souvenons-nous, lorsqu'avec notre patriarche Moïse, il s'est agi de quitter l'esclavage pour être conduit à la liberté, le bon Dieu a promis à ce peuple choisi entre tous une terre. Et avant de donner cette terre, dans ce cheminement du désert, le bon Dieu, nous l'avons entendu dans la première épître dimanche dernier, a donné une loi, les 10 commandements pour éclairer ce que notre péché empêche d'apercevoir, le bon sens de la loi naturelle. Et en premier lieu, le bon Dieu a placé ce qui fait défaut à notre monde, qui s'est donc effondré, le culte légitime que nous devons rendre à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton esprit, de toute ta force. Tu sanctifieras le jour du Seigneur, tu respecteras le nom de Dieu. Et ensuite viennent les autres commandements. Tu honoreras ton père et ta mère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. Tu ne convoiteras pas plus la femme du voisin que sa vache, etc., etc. Le bon Dieu a donné cette loi alors que le peuple chemine vers une terre promise. Et lorsque, avec Josué, on entrera dans cette terre promise par Dieu, on se rendra compte non seulement qu'il s'agit d'une terre occupée, et puis, dans toute l'histoire sainte, ce peuple d'Israël, ce peuple de nomades, de bergers avec ses troupeaux, qui finira par se sédentariser au temps du roi David, ne cessera d'être déporté. Et c'est ce que nous rappelait la première épître. Voilà qu'il va falloir encore une fois quitter la terre d'Israël, que le temple où réside la présence de Dieu et l'arche d'alliance a été détruit, brûlé, mis à sac, détruit. Que dit notre Seigneur Jésus de Christ ? Lui, le dernier des grands prophètes et le Fils de Dieu, il pleure sur Jérusalem, car il sait que quelques 40 années après le sacrifice de sa vie sur le calvaire, non seulement le temple sera de nouveau détruit et plus jamais rebâti en l'an 70, mais aussi qu'il ne restera de Jérusalem pas une pierre. Et nous voyons ce peuple être conduit de nouveau d'une terre étrangère à une autre. Et nous nous souvenons, bien sûr, en notre 20e siècle, que cet exil également fut également encore, et nous le voyons aujourd'hui, des causes, et des causes parfois désespérées, pour demeurer fidèles à cette terre promise par Dieu. Ce peuple qui marche dans les ténèbres, qui passe de l'exil jusqu'à la terre promise, ne concerne pas seulement Israël, mais nous figure chacun. Nous sommes ce peuple de Dieu et nous errons loin de Dieu. Chaque fois que nous nous allons au péché, chaque fois que nous nous détournons de sa loi, chaque fois que nous préférons à son admirable lumière le règne des ténèbres qui nous entoure. Nous sommes donc ce peuple qui marche dans les ténèbres, mais qui a vu se lever cette grande et vive lumière. Alors que nous sommes dans ce temps du carême et que nous cheminons avec le Seigneur dans le désert de ce monde semé d'embûches et d'épreuves, il s'agit pour nous du milieu du carême, il s'agit pour nous du dimanche de la joie. Et où se trouve donc la joie lorsqu'on erre ainsi dans le désert, loin de Dieu, si ce n'est dans le fait de retrouver le bon Dieu, dans la prière, dans l'aumône, car comme Dieu nous donnons et de notre temps, et de notre argent, et de notre nécessaire, pour manifester au bon Dieu ses œuvres de miséricorde, pour manifester que nous avons grand désir de revenir vers lui et de lui appartenir. Voilà où se trouve la joie de ce carême qui nous conduit à la lumière de Pâques, Et dans l'exultation pascale, nous en viendrons même à louer le péché. Bienheureuse faute, dirons-nous, qui nous a valu un tel Rédempteur. Et dans ces différentes pérégrinations, dans cet exil de ce peuple de Dieu qui marche dans les ténèbres de ce monde, éclairé par la lumière de la foi, de l'espérance et de la charité, nous avons entendu le Seigneur, dans cet évangile, rappeler à Nicodème que lorsque ce peuple était ainsi en train de cheminer dans le désert, il s'est plusieurs fois révolté contre Dieu. Il a même fini par regretter l'esclavage en Égypte, où il n'y avait ni liberté, ni salaire, où on travaillait comme des forcenés, où l'on fabriquait des briques pour Pharaon et ses idoles. Alors que là, on meurt de faim, on meurt de soif, on marche dans le désert, on suit Moïse qui est bègue, on ne sait pas où il nous conduit, un coup il y a la mer Rouge, un coup cette mer s'ouvre, on a soif, on fait jaillir de l'eau, on en a ras-le-bol de ce bon Dieu. Et voilà que le bon Dieu, dans sa colère, a envoyé les serpents. Les serpents qui piquaient et brûlaient les fils d'Israël qui aussitôt mouraient. Le serpent figure, depuis le jardin d'Éden, le mal et le démon. Le serpent figure les œuvres des ténèbres qui nous entraînent à faire dans ces tentations qui nous assaillent et à laquelle bien souvent nous succombons. Et voilà que, intercédant une nouvelle fois en patriarche, Moïse demande à Dieu d'épargner le peuple. Et voilà que le bon Dieu demande à Moïse de façonner un serpent de bronze, de le dresser sur un bâton, de telle sorte que chaque fois qu'un Israélite était piqué, s'il levait les yeux vers le serpent de bronze, il était sauvé. Voilà la préfiguration de la croix du Seigneur. Le livre de la Sagesse ne s'y trompe pas, il reprend cette image en disant « Ce n'est pas le serpent de bronze qui nous sauvait, c'était Dieu l'Éternel qui, à travers le fait que nous ayons les yeux levés vers ce signe préfigurant la croix du Seigneur et notre rédemption, opérait alors le salut. » Et le Seigneur d'annoncer qu'il sera élevé de terre, identifié au péché, drôle d'idée dans l'Ancien Testament du bon Dieu, d'aller demander qu'il fallait faire un serpent qui symbolise le mal et le péché, et que c'est en regardant le mal et le péché que l'on serait sauvé, mais parce que la pleine lumière de ce mystère est dévoilée au jour où le Seigneur Jésus lui-même, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, celui qui est identifié au péché, offre sa vie en réparation pour nous. Elle est là. La joie du carême, la joie de savoir qu'au milieu des turpitudes, des épreuves de ce monde, de la maladie, de la souffrance qui peut nous assaillir, de ce monde qui n'en finit pas de se diviser parce qu'il s'éloigne de Dieu et de sa loi, la joie réside dans le fait que nous savons que le Christ a vaincu le monde et que cette victoire est définitive, bien qu'elle soit reportée au dernier jour. Le Seigneur nous le dit donc dans l'Évangile, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur le bois de la croix. Et le Seigneur de rappeler que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a créé pour nous, par amour pour nous, et bien qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver. Voilà Dieu le Fils qui devient homme pour que nous, hommes, puissions parvenir à la gloire éternelle. Nous sommes dans l'exil. Nous sommes dans l'exil du désert, mais nous attend la terre promise de la vie éternelle. Puis le Seigneur Jésus a précisé, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Ne nous y trompons pas avec tous les relativistes de notre monde. Il y aura bien le jugement dernier, comme il y aura au moment de notre mort, notre jugement particulier. Ce qu'affirme le Seigneur à Nicodème, c'est que le Fils n'est pas venu d'abord dans son incarnation pour instaurer le tribunal de Dieu. Celui-ci est reporté au dernier jour, à la fin des temps. Il est d'abord venu dans le monde, lui qui est l'espérance et la miséricorde incarnée, le Dieu fait homme pour nous sauver. C'est pourquoi nous devons élever nos yeux Nous devons élever en notre âme la foi pour croire au Fils de Dieu et bien comprendre, et c'est là l'espérance chrétienne, qu'au milieu des épreuves de ce monde enténébré, le Seigneur est vainqueur. « J'ai vaincu le monde », affirmera-t-il, même si le monde n'en finit pas dans ses batailles, préférant la mort à la vie, de paraître victorieux et joyeux. Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde tout d'abord, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Et le Seigneur ensuite de parler du jugement. Le jugement de ce monde, le voici. La lumière est venue. Et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Regardons un tant soit peu notre monde, et plus particulièrement notre France, cette semaine. Nous avons vu quelques 200 barbares encagoulés s'en prendre à un lycée. Une interpellation, et dans les commentaires, on nous a dit « mais c'est vrai que ce lycée est en mauvais état ». Oh, alors si c'est ainsi maintenant que parce que les choses sont en mauvais état, qu'il faut s'engagouler et aller détruire une école. Voilà que nous préférons les ténèbres à la lumière. Ensuite, nous avons assisté à des scènes surréalistes d'une soi-disant joie parce qu'on tue des enfants dans le ventre de leur mère. Le monde a préféré les ténèbres à la lumière. On a invoqué ça comme un droit des femmes, mais si on pratique un avortement, c'est que cette femme est une mère. Une mère aurait donc le droit de tuer son enfant. Et ça, c'est une joie. C'est une joie que l'on met comme dans les premiers principes de notre Constitution. Et ce faisant, ce droit sera supérieur à la liberté de conscience du médecin qui voudra, au nom du serment d'Hippocrate, eh bien défendre coûte que coûte la vie. Et maintenant que la porte est ouverte pour tuer l'enfant innocent par excellence dans le ventre de sa mère, la porte sera donc ouverte pour que l'on puisse se débarrasser du vieillard encombrant, que l'on puisse se débarrasser de celui qui sera handicapé, qui sera un peu trop coûteux pour notre société. Eh bien voilà. Voilà que notre monde préfère les ténèbres à la lumière. Nous voyons une France que l'on appelait jadis la douce France, avoir perdu en même temps que sa foi, sa douceur de vivre, sa bienveillance. Nous avons perdu non seulement le sens du travail par un état omniprésent qui annule tout esprit d'initiative, et nous ne reconnaissons plus, oh, nous sommes encore un peu préservés grâce à Dieu en notre pays toy. Mais dans notre pays toy seulement, lorsque nous quittons le pays, comme nous disons, et que nous descendons, eh bien nous voyons des choses méconnaissables. Eh bien voilà que nous pleurons avec Notre-Dame de la Salette. Nous pleurons sur ses difficultés, nous pleurons sur ses épreuves, nous pleurons parce que notre peuple, qui jadis fut l'un des préférés du bon Dieu par les grâces innombrables qu'il a données, eh bien, a perdu le sens de la foi. Nous nous réjouissons malgré tout en ce dimanche de la joie, parce que la joie profonde, c'est que le Christ a vaincu le monde, et que tous ceux qui se réjouissent de façon éphémère parce que l'on tue l'innocent dans le ventre de sa mère, ou parce que bientôt on tuera le vieillard pour avoir plutôt l'héritage, oh, comme ça il souffrira pas, à nous l'oseille. Voilà le monde qui préfère les ténèbres à la lumière. Nous pleurons avec Notre-Dame et nous supplions pour que la France et le monde retrouvent le bon sens, le sens de cette lumière naturelle, de cette loi que le bon Dieu nous communique. Et nous supplions pour tant de détresse, pour tant d'épreuves, ainsi soit-il.